débat et controverse sur BFM Business. Les experts de l'IA. Frédéric Simotel.
Bonjour et bienvenue dans ces experts de l'IA. Voilà un plateau un peu particulier. Nous sommes où ? Nous sommes à Lille. Lille à Euratechnologie. On va en reparler dans un instant. Voilà, c'est un grand centre qui regroupe des startups, des entrepreneurs autour évidemment des technologies. Un sujet qui va nous intéresser et plus particulièrement l'intelligence artificielle. Ici a lieu à Lille aujourd'hui le grand sommet de l'IA, acte 2. On va dire, puisque l'acte 1, c'était février 2025 à Paris. Et bien là, l'acte 2, c'est ici. Il y a des politiques. Vous voyez derrière moi, Anne Lenoff, la ministre numérique, a inauguré, enfin lancé ce sommet ce matin. Et on aura, voilà, tout au long de la journée, on a Bruno Bodel qui est passé, on aura des entrepreneurs, on aura justement nos invités qui défileront aussi sur cette scène. Et puis à 18h, en visioconférence, Emmanuel Macron qui sera en présence, je crois qu'il sera avec le Premier ministre canadien, Marc Carney, voilà, pour continuer à parler de tous ces enjeux autour de l'IA. Et on va aborder tous ces sujets, bien entendu. On va parler souveraineté, on va parler de l'usage, on va parler justement d'emploi, parce que ça aussi, on est dans le bassin des Hauts-de-France et, comme tout le monde, on s'inquiète de l'emploi, de l'IA, voilà, quel peut être l'impact. Et puis, vous savez, on voit peu à peu cette souveraineté qui a migré. On pensait qu'il fallait être fort dans les algorithmes, dans les modèles de langage. Oui, il faut l'être. Mais on voit que, peut-être, nous, notre carte à jouer, elle peut être aussi dans les réseaux d'infrastructures, les centres de calcul IA, les réseaux énergétiques et on a vu cette annonce il y a quelques jours, SoftBank qui annonçait un investissement de 75 milliards en France, dont une première tranche qui pourrait bénéficier autour au Hauts-de-France. Alors on aura Xavier Bertrand qui passera au cours de cette émission, mais déjà on va démarrer notre débat avec Manuel. C'est tout de suite, je vous le présenterai juste après le petit jingle. Et c'est parti. Alors avec moi sur ces experts de l'IA, Manuel Davy, bonjour.
Bonjour Frédéric.
Merci d'être venu. Vous êtes président de la Cité de l'IA. Vous êtes un peu à l'origine de tout ça.
On n'y est pas pour rien.
Ouais, de tout ce ramdam, voilà, mais très bénéfique pour l'IA et pour la région de France. Avec nous également Emmanuel Durand. Bonjour Emmanuel.
Bonjour Frédéric.
Président du directoire d'Euratechnologie et Robin Rivaton. Bonjour Robin.
Bonjour.
Que vous connaissez bien sur les antennes de BFM, la CEO de Stonal. Manuel, justement, alors juste un mot sur la Cité de l'IA et nous dire pourquoi vous êtes un peu l'usuel suspect de ce grand rassemblement aujourd'hui à Lille.
Oui, alors d'abord, la Cité de l'IA, c'est un réseau d'entreprises qui compte aujourd'hui à peu près 150 entreprises adhérentes, principalement de Hauts-de-France, qui elles toutes font à peu près 90 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc vous voyez, il y a des très grands groupes. Il y a aussi des ETI et des PME. Et on a souhaité également qu'il y ait les incubateurs, qu'il y ait les académiques, les écoles, parce que notre rôle, en fait, c'est d'agiter cet écosystème de l'IA dans la région pour permettre à nos entreprises d'être plus en pointe sur cette technologie qui est absolument fondamentale pour elles dans le futur.
Alors, le fait de ce salon là, c'est parti d'où d'avoir ce sommet. Alors, on le rappelle, c'est un peu le point de départ parce que toute la semaine il va y avoir plein d'événements. Je crois que demain il y a un événement à Amiens. Enfin, dans les Hauts-de-France, il y a plein d'événements autour de l'IA. Il y a un festival de l'IA. Ça démarre demain jusqu'au 19. Voilà, pourquoi ce sommet aujourd'hui?
Alors l'an dernier, on a organisé notre grand sommet de l'IA de la Cité de l'IA, donc avec une échelle peut-être un peu plus modeste en termes de grandes personnalités internationales, mais très orientée business et ce qui a été un grand succès. Et les équipes de l'Élysée qui étaient présentes ont décidé à ce moment-là de positionner ce sommet que le président souhaitait faire dans la région de Hauts-de-France parce qu'ils ont compris qu'il y avait ici une énergie exceptionnelle autour de l'IA, qu'il y avait un savoir-faire, une volonté aussi de la région de se booster sur ce sujet. Donc c'était tout à fait normal par rapport à tout cet écosystème de venir ici aujourd'hui.
Et donc de lancer cette grande journée. Et puis ça se joue à guichet fermé. Je crois c'était 1200 personnes prévues, mais je crois qu'on est beaucoup plus déjà ce matin.
Tout à fait. Oui, il y a beaucoup de monde.
Et pas mal de conférences. Alors avec nous également Emmanuel Durand, président du directoire d'Euratechnologie, donc qui nous accueille ici. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Euratechnologie, c'est une ancienne usine industrielle qui a été totalement rénovée. Alors, ça fait pas mal d'années déjà.
Ça fait 17 ans, effectivement. C'est né d'une ambition politique portée par Pierre de Saint-Ignon, qui, de cette friche industrielle où on m'a dit que les gens n'osaient pas aller tellement c'était dangereux, a fait naître un écosystème qui aujourd'hui compte à peu près 600 entreprises, une dizaine de milliers d'emplois, etc. Donc il y a un impact sur le territoire absolument incroyable.
Et de gros événements, je crois que vous organisez presque 500 événements par an.
Absolument.
Ici même. Et avec vous, on va parler justement de l'attractivité de Lille et puis IA et emploi, parce que c'est un des thèmes aussi dont on va beaucoup débattre aujourd'hui. Robin, parlons justement, donc merci d'être avec nous, parlons justement de ce qui se passe en ce moment. Alors, aujourd'hui est une journée un peu particulière. On est tous un peu focus sur la grande entrée en bourse de SpaceX, hein, et de tout l'environnement. Il y a SpaceX, il y a Starlink, il y a XAI, il y a quand même une partie intelligence artificielle. Ça va donner un peu le ton sur les autres entrées en bourse. On attend celle d'Anthropic, on attend celle de OpenAI. Pourquoi, malgré tout cela, on ne se sent pas totalement décroché ici quand on est en France et plus particulièrement ici dans les Hauts-de-France?
Je pense qu'il faut totalement décorréler la spéculation boursière autour de ces grandes entreprises de l'intelligence artificielle, que ce soit des fabricants de modèles ou qu'elles soient des fabricants de mémoire ultra rapide, type les Sud-Coréens, Samsung, SK Hynix. Il faut décorréler cette spéculation boursière de l'impact concret de cette technologie sur nos entreprises. Et aujourd'hui, on n'a pas besoin du dernier modèle, de la dernière génération de modèles de langage étendu pour déjà faire des gains de productivité au sein de nos entreprises. On n'a pas besoin d'avoir forcément, on peut avoir une IA qui peut être open source, on peut avoir une IA qui est propriétaire, mais le vrai enjeu pour moi, c'est de faire en sorte, et on avait fait lors du Tour de France de l'IA organisé par le MEDEF et le Numéum, dont j'étais l'ambassadeur, on avait fait une excellente étape à la Cité de l'IA avec beaucoup beaucoup de monde en fin d'année 2024. L'idée, c'est de faire en sorte que toutes les entreprises puissent utiliser ces modèles. Et la vraie révolution, elle ne sera pas d'avoir une méga entreprise géniale. La vraie révolution, c'est que chacune de nos entreprises permette de faire 0,5% de gains de productivité supplémentaire. 0,5% de gains de productivité supplémentaire par an, ça paraît anecdotique, mais en France, on stagne depuis 2014 en termes de productivité horaire. Donc 0,5, c'est un changement radical sur 15 ans. Ça fait 20% de productivité supplémentaire, ça change complètement la face d'un pays. Donc l'enjeu, c'est bien d'avoir des géants, c'est bien d'avoir des vitrines, mais même si on n'en avait pas, je pense qu'il faut vraiment s'intéresser à la question du déploiement au sein du tissu économique, industriel, serviciel, commercial de ce pays.
Oui, puis c'est bien d'avoir quelques porte-drapeaux aussi.
Très bien.
Voilà, on a un Mistral, mais on en a d'autres qui sont en train de monter autour de tout ça. Manuel Davy, les entrepreneurs, enfin les patrons de PME, de TI qui font partie de la Cité de l'IA, aujourd'hui, comment ils perçoivent justement l'IA? Parce qu'évidemment, nous, on voit un peu le côté bénéfique, voilà, davantage de productivité, on apprend plein de choses, enfin, voilà, vraiment un accompagnement au quotidien. Il y a quand même quelques côtés, on a des craintes sur l'emploi. Enfin, voilà, comment ils perçoivent et quelle est leur maturité sur ce sujet?
Alors, dans les membres de la Cité de l'IA, la maturité est, je dirais, exceptionnellement haute par rapport, évidemment, à l'intérêt que portent les entreprises. Je vous donne quelques chiffres. Hein. On a 70% quasiment de nos membres et de notre écosystème, des entreprises qui disent qu'elles sont avancées sur l'IA. Il y en a quasiment les trois quarts aujourd'hui qui ont lancé des plans de formation généralisés et il y en a à peu près 20% qui anticipent des évolutions des postes. Donc ça traduit à la fois l'enthousiasme des entreprises et aussi la prise de conscience qu'il y a des vrais changements internes qui peuvent être difficiles, notamment autour de l'évolution des emplois. Les entrepreneurs globalement ne craignent pas de la destruction massive d'emplois, ils voient vraiment l'opportunité, mais par contre ils se disent oui, il y a quelques risques qu'on doit piloter sur la transformation des métiers, sur la souveraineté, notre capacité à rester autonome et indépendant, la sécurité des données. Donc c'est des préoccupations très opérationnelles en réalité, et sur la volonté d'y aller sur l'IA aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de questionnement de la part des entreprises.
Oui, ils savent qu'il faut y aller. Emmanuel Durand, IA et emploi, comment on l'aborde d'un point de vue entrepreneurial selon vous?
C'est vrai que c'est une vraie question parce que l'objet en fait d'Aura Technologies, c'est de créer de l'emploi dans la région. Nous, on a un rapport à l'IA qui est peut-être une problématique différente de celle que tu adresses, Manuel, au sein de la Cité de l'IA, puisque ta problématique, c'est d'intégrer l'IA dans les entreprises. Et pour nous, c'est de créer des entreprises
autour de l'IA.
Autour de l'IA, en bénéficiant de l'IA, avec deux typologies, ceux qui l'utilisent et ceux qui construisent des solutions. On le voit de manière presque plus générale, chaque rupture majeure comme ça a amené en fait son lot de questionnements sur les emplois qui allaient disparaître, etc. Il y a un économiste qui a établi un paradoxe de Jevons où chaque rupture technologique majeure crée autant d'emplois finalement que d'anciens qui disparaissaient. Et je vais faire une punchline, un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse.
Oui.
Donc on regarde beaucoup plus effectivement les entreprises qui souffrent et les emplois qui risquent de disparaître que ceux qui sont en train actuellement de naître. On le voit dans l'entrepreneuriat, il n'a jamais été aussi facile de créer une entreprise qu'aujourd'hui. Ce n'est pas une question d'accès au capital, etc. C'est simplement que la barrière à l'entrée d'arriver à produire quelque chose devient beaucoup plus accessible.
Après, c'est la partie passage à l'échelle. Quoi. C'est
absolument. Et notamment, on sait qu'on va avoir notamment donc une explosion en fait du nombre de produits, notamment logiciels, qui vont arriver. Et c'est leur distribution qui va devenir le goulot d'étranglement. Et c'est là où, de nouveau, en fait, la concurrence va s'exprimer.
C'est quoi les besoins des startups IA que vous hébergez ici?
Alors nous, reconnu par nos startups comme étant extrêmement utile, des partenariats technologiques avec des acteurs un peu majeurs, que ce soit dans le quantique avec Pascal ou dans le cloud avec Microsoft, Azure, etc. Il y a des problématiques qui reviennent extrêmement souvent, qui sont la souveraineté. Le cyber, parce que l'IA vient avec son lot de problématiques de failles de sécurité et donc on voit bien qu'en fait ce sont des sujets qui étaient toujours un peu dans le fond et qui avec l'IA se retrouvent un peu propulsés quand même un peu plus sur le devant de la scène. Donc ces notions de se dire effectivement on ne veut pas être dépendant d'un modèle qui peut être demain unplugged par un allié qui devient un adversaire, me suivez mon regard. Donc ces notions de continuité économique deviennent cruciales.
Ça c'est un sujet souveraineté, Robert Ignaton, qui est vraiment monté. Hein. C'était une petite musique, dans la tech. Voilà, on dit oui, il faudrait qu'on soit davantage souverain. Là, c'est Donald Trump qui. Mais l'élan était donné. Hein. Obama, Biden étaient déjà très américains. C'était pas make America great again, mais c'était quand même priorité aux Américains. Bon, Donald Trump l'a fait de façon beaucoup plus brutale et beaucoup plus visible. Mais on a senti du coup. On sent vraiment que ce côté souverain fait partie, alors avec plein de choses, tout ce qu'on peut mettre sous la souveraineté, l'indépendance technologique, l'autonomie stratégique, l'autonomie économique, mais on sent que c'est parti quoi, sur ce sujet-là.
Déjà, première remarque, effectivement, la pensée stratégique américaine ne changera pas avec le départ de Donald Trump. C'est un mouvement beaucoup plus profond.
Oui, on ne reviendra pas en arrière.
Donc ça, c'est un point très important. Aujourd'hui, la question de la souveraineté, elle se confond beaucoup avec la question des coûts. Elle redevient avec une question microéconomique, tout simplement parce qu'on se rend compte que les modèles dernière génération, les modèles à la frontière, ont des coûts qui sont aujourd'hui déraisonnable par rapport à ce qu'est l'activité économique et par rapport aux gains de productivité qui sont réellement générés. Et donc, vous avez beaucoup de papiers ces temps-ci qui ont signé la fin du token maxing, donc la consommation excessive de tokens. Et c'est un mouvement qu'on voit dans les entreprises, même des entreprises qui sont très avancées, qui sont très innovantes, commencent à se dire effectivement, pour tel cas d'usage extrêmement précis, j'ai besoin du dernier modèle frontière. Mais en fait, le modèle à 80% de capacité équivaut seulement 1% du coût du modèle frontière, il est peut-être très bien pour plein de cas d'usage. Et donc on arrive dans une phase où la question de la souveraineté va se reconjuguer avec des questions économiques, oui, microéconomiques, et les modèles open source ou des modèles beaucoup moins chers vont regagner en importance parce que les gens vont se dire c'était bien d'avoir testé, j'ai testé plein de cas d'usage, je vois que j'ai des retours et des coûts. Et parfois, le ROI est faible. Et donc, le meilleur moyen de re-augmenter le ROI, c'est de baisser le coût de ces solutions. Et
donc, on ne regarde plus seulement la performance, mais on regarde vraiment... Parce qu'en plus, parfois, c'est la performance, l'écart n'est pas aussi important.
Oui, aujourd'hui, l'écart entre un modèle open source va être de 20% par rapport à un modèle frontière, pour le meilleur modèle open source. Et l'écart de prix va être de 1 à 100. Donc, objectivement, vous pouvez vous poser des questions légitimes. Et donc ça va rejoindre la question de la souveraineté parce qu'en fait les gens qui peuvent fournir des modèles, qui peuvent utiliser des modèles open source en local ou qui peuvent fournir des solutions domestiques, je pense à Mistral ou à d'autres acteurs européens, on peut penser aussi aux Canadiens de Coair, enfin bref à des acteurs qui sont hors du champ des États-Unis ou de la Chine, ces solutions-là vont gagner en importance et donc elles vont faire regagner en souveraineté de manière incidente.
Justement sur cette partie souveraineté, Manuel Lévy, alors je le disais tout à l'heure, de belles annonces lors de Choose France, hein, notamment SoftBank, et c'est vrai que la région ici, on en parlera avec Emmanuel Durand, va pas mal en bénéficier. Hein.
Alors effectivement, elle a des très beaux atouts à faire valoir. Il y a effectivement du terrain situé à suffisamment près des sources d'énergie et puis des réseaux informatiques pour pouvoir avoir une implantation qui a du sens. Donc il y a effectivement plusieurs grandes vagues d'investissements qui sont annoncées pour notre région et c'est une énorme chance. Donc on accueille évidemment tout cela avec plaisir, avec l'idée que ce soit aussi un nœud névralgique peut-être de l'IA, non seulement en France mais également en Europe, puisqu'on est connecté près des frontières ici. Donc c'est effectivement une très belle annonce. Après, sur les data centers, je pense qu'il y a une vague actuellement d'équipements qui est tout à fait nécessaire. Il ne faut pas perdre de vue qu'aujourd'hui, les microprocesseurs des PC évoluent et que très bientôt, on aura chacun notre modèle sur notre PC. Et donc, le rôle des data centers, qui reste un élément fondamental, va aussi évoluer dans le temps. Donc, il faudra rester vigilant aussi à cette évolution technique.
Oui, sur ces investissements, justement, qui ont été annoncés, Emmanuel Durand, votre regard
En fait, c'est aussi la conséquence d'une surcapacité d'électricité décarbonée.
Oui.
Enfin, on en parle peu, mais enfin, on est quand même un pays qui en pointe sur ces sujets. Et ça représente un atout, et les Hauts-de-France sont évidemment en première position. Des 75 milliards, a priori 45 milliards sont fléchés vers les Hauts-de-France. Mm-hmm. Hein,
oui, c'est ce qui est annoncé en tout cas.
Absolument. On verra sur le déploiement, mais en tout cas.
La promesse est là.
L'envie est là.
L'envie est là.
Je suis un nouvel arrivant, moi, dans le Nord. J'étais parisien jusqu'à il y a 6 mois et j'ai pris mes fonctions en janvier. Et donc, je suis très sensible à des signaux que les gens de l'écosystème, qui sont là depuis longtemps, peut-être voient moins. J'ai été surpris.
Comme cet événement, par exemple, là, on voit, c'est quand même, enfin, pas étonnant, non, mais de voir autant de monde sur un événement, il y a 3 semaines, il n'existait pas. Presque, c'était.
Mais réellement, en fait, la question que je me posais en venant ici, c'était est-ce qu'on peut faire de l'innovation, faire de l'entrepreneuriat en dehors de Paris? Est-ce que la France, qui est très centralisée, aspire les projets vers la capitale? Ça peut être vrai dans une certaine mesure, mais on le voit, ici, il y a des atouts que Paris n'a pas. En termes d'infrastructure, en termes de prix du foncier, en termes d'accès aux talents. Il y a un pool d'écoles de très haute qualité. On voit une boîte comme Exotech, par exemple, qui choisit de s'installer dans le Nord, qui fait des robots.
Robots pour les centres, les entrepôts. Notamment.
De logistique, absolument. Et qui choisit de s'installer dans le Nord parce que prix du foncier plus capacité à attirer des talents, en fait. Donc on a, en fait, une conjonction d'éléments favorables qui en font un lieu idéal pour nourrir les projets. Et Euratechnologie est destiné à être le vaisseau amiral de ce type de choses, en étant finalement un catalyseur de ces différents éléments, comme aujourd'hui, en les ramenant dans un lieu qui permette d'être un accélérateur de particules, on va dire.
Robin, c'est important cette décentralisation, parce que c'est vrai que faire vivre les régions. Alors nous, BFM Business, notre actionnaire est basé à Marseille, donc lui aussi essaie de faire rayonner sur la région sud. La région lyonnaise est assez importante. Enfin voilà, on voit toutes ces régions qui essaient de. Et l'IA peut être un moyen d'attirer davantage de talents, d'entreprises et création d'emplois.
Encore une fois, la révolution de l'IA, ce sera la révolution des usages et le fait que toutes les entreprises de tous les secteurs, de tous les territoires utilisent l'IA. Si la révolution de l'IA, c'est la création de quelques champions dans les zones métropolitaines les plus dynamiques, ça sera une révolution qui sera un feu de paille. Ça ne sera pas non plus que des data centers. Les data centers, c'est des infrastructures qui sont essentielles, mais sur les territoires où elles sont installées, c'est pas ça qui les fait gagner en richesse. Ce qui les fait gagner en richesse, c'est quand, encore une fois, vous avez une entreprise, qu'elle soit dans le commerce, qu'elle soit dans l'industrie, qu'elle soit dans le transport, qui réussit à faire des gains de productivité, pas magiques, mais juste un petit peu plus, à faire mieux. Et le gros enjeu, et ça je pense c'est très important dans les prochains mois, ça va être le passage des gains de productivité de l'échelle individuelle à l'entreprise. Aujourd'hui, on voit des gains de productivité individuelle qui sont très marqués. On le sent tous les gens qui utilisent l'IA font des gains de 10, 15, 20, 30%. Aujourd'hui, à l'échelle des entreprises, ces gains ne sont pas encore évidents. Pour une simple et bonne raison, pour que les gains individuels se transforment en gains collectifs, il faut réorganiser les process. On l'a vécu lors de l'introduction du remplacement de la machine à vapeur par la dynamo, lors de l'électricité. Les gens avaient des usines, ils ont changé le moteur, rien n'a changé, la productivité restait la même. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont dû passer ? Il s'est passé, ils ont reformaté les processus de production au sein de l'usine, et tout d'un coup, la productivité, grâce à l'électricité, a explosé. C'est exactement la même chose dans les métiers de service. On ne produit pas du service tout seul dans son coin, on produit du service en étant dans une chaîne d'acteurs qui discutent les uns avec les autres, qui se coordonnent. Et si on ne fait pas ce travail de modification des processus de production, en fait, la coordination remange les gains de productivité qu'on peut faire. Donc je pense que la prochaine étape, et c'est pour ça que ces événements sont très importants, parce qu'ils permettent d'acculturer les chefs d'entreprise, mais aussi les salariés, les syndicats, parce que ce n'est pas quelque chose qui se fera juste par la volonté du chef d'entreprise, au besoin de reformater, de changer les process. Dans ce changement de process, il peut y avoir des disparitions d'emplois. Il ne faut pas dire qu'il n'y en aura pas, ce ne serait pas vrai.
Tâches, moi, je parle plus de
mais aussi d'emplois. Ouais. Mais aussi d'emplois. Ouais. Je pense qu'il faut être un moment, faut avoir un discours de vérité. Ouais. Donc, ça, au global, au net, ce sera une révolution qui sera positive. Il y aura plus d'emplois qui seront créés. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'emplois qui seront détruits. Mais il faut être conscient de ça. Ça veut dire qu'il y a des tâches qui vont être modifiées. Et ça, ce discours sur la plasticité des organisations, pour moi, il est absolument important. Parce que la tentation de beaucoup de gens, c'est de se rigidifier par rapport au changement. Et donc on a une techno, on paye cette techno, on a des effets à l'échelle individuelle, mais on n'arrive pas à les traduire à l'échelle collective.
Mais d'ailleurs, c'est ce que je vous conseille d'ailleurs, si vous avez, si vous en avez l'occasion, d'écouter l'audience parlementaire de Arthur Mensch, le patron de Mistral. Voilà, ça dure une heure et quart. Enfin, c'est très intéressant. Et il le dit lui-même, même chez Mistral, les taux de productivité individuels sont très importants. Mais dès qu'on met ça, et pourtant, voilà, Dieu sait s'ils doivent aller vite, s'ils doivent calculer la productivité des équipes. Et bien, il dit, dès qu'on met ça au niveau des équipes, ah là, ça chute considérablement. Ce changement des process, c'est ça. C'est ce qu'il faut voir aussi, Manuel Davis. L'IA, c'est pas juste un outil, une plateforme. On se forme et puis après, voilà, on l'utilise comme on utilisait nos logiciels un peu classiques. C'est une vraie transformation. Je rebondis sur ce que dit Robin. C'est une transformation des processus. Il faut que des gens dans le métier disparaissent, ben, rebasculent vers d'autres métiers. On travaille différemment.
Absolument. Et souvent, d'ailleurs, l'angle que prennent les entreprises autour de l'IA, c'est de l'aborder par un angle technologique, c'est-à-dire les data, les algorithmes, les agents. Et assez vite, elles se rendent compte que finalement, elles ont négligé l'essentiel. L'essentiel, c'est d'embarquer les personnes, d'embarquer chaque opérateur, chaque équipe dans cette transformation. Et comme l'a très bien dit Robin, c'est d'être avant tout des sujets de transformation de process. Et donc, cette phase-là, on voit que les plus avancés ont commencé à l'aborder. Ça reste une transformation difficile parce que l'IA suscite beaucoup de questions, parfois aussi de la peur.
Oui.
Mais c'est vraiment cet enjeu-là qu'il faut qu'on réussisse à adresser aujourd'hui.
Et puis, je vous interromps, et puis en plus, ce qui se passe aujourd'hui avec cette technologie, c'est qu'elle avance au galop. Donc on a l'impression toujours on installe une version que déjà la nouvelle version ou celle du concurrent est arrivée, donc ça perturbe aussi.
Il y a un sentiment de submersion et il est essentiel d'ailleurs que les responsables des entreprises, des dirigeants, les cadres sachent prendre aussi un pas de recul par rapport à ça, parce qu'il y a aussi un cœur technologique qui lui est relativement stable. En fait, c'est la façon dont il se décline dans les usages qui donne le sentiment de vitesse. Mais à un moment donné, si on veut construire long terme, il faut aussi savoir prendre ce pas de recul et se projeter de manière raisonnable sur ce qui va arriver technologiquement, qui sera peu ou prou assez proche de ce qu'on a aujourd'hui avec une spécialisation peut-être plus avancée.
Et Emmanuel, vous voulez...
Je voulais rebondir parce qu'il faut effectivement être capable de séparer la vague de l'écume.
Oui.
Les entreprises américaines sont très très fortes en annonces fracassantes.
Ils
sont à la veille de découvrir ce qu'ils appellent l'AGI, l'intelligence artificielle générale. De plus en plus de voix discordantes commencent à dire que ça ne va pas être le cas avec les modèles actuels, qui vont à un moment donné plafonner.
Il y a la vague agentique maintenant, on ne comprend pas.
Absolument. Et effectivement, ces annonces fracassantes créent un sentiment d'obsolescence chez tout le monde, y compris chez des gens qui sont très 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 forts,
oui,
d'être toujours en train de courir derrière et de ne pas maximiser l'impact qu'il pourrait en avoir. Et je pense qu'il faut se mettre en mouvement avec beaucoup de sérénité par rapport à ça, et effectivement se dire l'important c'est d'être dans cette dynamique, d'être dans ce mouvement. Et il y a une dimension au-delà des process psychologiques,
oui,
de se dire comment effectivement on arrive à faire travailler les gens individuellement et collectivement avec ces nouveaux outils.
Oui, c'est ça, c'est pouvoir garder le rythme d'innovation et puis en même temps ne pas se laisser éblouir un peu par ce qui se passe aux États-Unis ou en Chine. On parle pas de Chinois, mais Chinois, bon.
Et ne pas se laisser tétaniser, parce qu'on avait vu beaucoup avec des patrons de PME qui disaient, mais en fait, je vais attendre que la poussière retombe et que les choses soient stabilisées, solidifiées pour me lancer dans cette démarche-là. Et c'est la pire des choses. En fait, il faut prendre le mouvement a débuté. Encore une fois, il y a les incréments ou les progrès marginaux des modèles aujourd'hui concernent des fonctions très très spécifiques. La réalité, c'est que la plupart des cas d'usage des métiers du tertiaire et du service peuvent être adressés avec des modèles déjà existants. Et donc, le coût de ces modèles les rend de toute façon destinés à vraiment des cas d'usage extrêmement, extrêmement spécifiques. Donc, je pense qu'il est temps de prendre la balle au bon, si je puis dire. Et surtout, il ne faut surtout pas avoir peur de ce sentiment d'obsolescence, d'agitation permanente, et encore moins de ces prophéties qui, effectivement, sont essentiellement, je pense qu'on peut le dire, à visée marketing, mais servent à tenir un discours qui justifie les valorisations complètement dingue de ces sociétés-là.
J'allais le dire, aujourd'hui, alors même si c'est pas de l'IA pure, mais il y en a beaucoup chez SpaceX, voilà, c'est complètement, enfin, ce qu'on vit aujourd'hui, enfin, on va voir quels sont les résultats au final, mais ce qui, enfin, la valorisation d'un SpaceX aujourd'hui, enfin, c'est complètement fou, 1800 milliards pour, voilà, une entreprise qui réalise, quoi, c'est 18 milliards de chiffre d'affaires, enfin, qui a des pertes.
Elle a 90 fois le revenu en termes de...
C'est tout ça complètement dingue.
Pour l'anecdote, dans les premiers document d'investissement de OpenAI, il y avait une clause qui disait que les investissements devenaient caducs à l'arrivée de la fameuse AGI, puisque de toute façon, on serait dans une société post-argent.
Oui.
Donc en fait, voilà le type de promesse de dire, voilà, on va complètement révolutionner le travail, on va révolutionner le rapport au fait comment de l'argent, etc. On s'aperçoit, aujourd'hui, c'est incantatoire. En fait, on va avoir un outil qui va être aussi important que peut-être l'Internet ou l'email, ou enfin, ce qu'on utilise aujourd'hui. Il ne viendrait pas à l'idée d'une entreprise de ne pas utiliser les emails aujourd'hui. Oui. Bon, bah, Validia, c'est pareil. Il faut l'inclure dans le stack des outils qu'on utilise, et voilà.
Et y compris au point de vue du citoyen, puisque c'est le but de ce sommet aussi, c'est de parler beaucoup des usages, un usage pour les entreprises, un usage pour nous tous. Mais si on va marquer une courte pause, on va revenir ensuite parler, tiens, j'aimerais bien qu'on parle aussi d'éducation, tout ce qui se transforme dans l'enseignement. Aujourd'hui, on est dans la région des Hauts-de-France, donc voir tout ce qui peut être fait aussi dans les régions. Voilà, les experts de l'IA, depuis Lille, le grand sommet de l'IA, c'est à Lille, c'est en direct. On se retrouve dans un instant sur BFM Business.
Débat et controverse sur BFM Business, les experts de l'IA, Frédéric Simotel.
Allez, les experts de l'IA, c'est reparti depuis le sommet IA de Lille, un grand sommet. Voilà, c'est l'acte 2 finalement. Vous avez tous en mémoire le sommet de Paris en février 2025, où il y a eu aussi beaucoup de monde. Et bien là, on est dans cet acte 2, mais ça se déroule ici à Lille, dans les Hauts-de-France. Alors pourquoi les Hauts-de-France? Parce que voilà, il y a beaucoup de choses à montrer ici. On est au sein d'Eura Technologie, qui est un pôle d'entreprise, des startups, des entrepreneurs, des écoles d'ingénieurs. Voilà, c'est vraiment tout le dynamisme autour de la technologie, de l'innovation, mais aussi de l'intelligence artificielle. Et puis on parle beaucoup des Hauts-de-France depuis quelques jours, parce qu'Atchouf France, SoftBank, a annoncé cet investissement majeur, 75 milliards, dont une première tranche de 40-45 milliards qui serait dédiée à la construction de data centers, de grands centres de calcul IA ici même au sein des Hauts-de-France. On continue notre débat, nous aurons Xavier Bertrand, le président de la région, qui sera là dans un instant, mais nous continuons le débat avec Manuel Davy, président de la Cité de l'IA, Romain Rivaton, CEO de Stonal, et Emmanuel Durand, président du directoire d'Euro Technologies. On a parlé un peu emploi, on a parlé souveraineté avec vous. J'aurais aimé, Romain, qu'on revienne un peu sur les coûts. Parce que là, il y a vraiment, on parlait de token maxing tout à l'heure, mais on sent qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Dans le grand public, on a entendu Google qui disait « je baisse mes abonnements » alors pour essayer d'attirer davantage de gens vers des solutions d'IA. Là, OpenAI, qui pour les entreprises a baissé ses coûts, qu'est-ce qui se passe à ce moment?
Et Sam Altman, qui a 10 jours, a reconnu que la question, la préoccupation des coûts devenait un sujet chez les clients d'OpenAI, alors que ça ne l'était pas chez les clients entreprises, les grands clients, les gens qui dépensent plusieurs millions par an auprès d'OpenAI, et que ça commençait à devenir un sujet. Donc on voit ce sentiment monter. C'est un peu la question que j'évoquais, c'est-à-dire que les gens ont beaucoup testé, ont vu des outils magnifiques, et puis à un moment on fait le rapport entre après le test, on regarde ce que ça rapporte et ce que ça coûte. Ça s'appelle le ROI, le retour sur investissement, quand on a un chef d'entreprise. Et force est de constater qu'aujourd'hui, encore une fois, les modèles à la frontière, les modèles les plus avancés, ont des coûts très importants pour des usages qui sont parfois pas limités, parce que les usages sont réels, mais pas suffisamment générateurs de retour. Et donc c'est un mouvement c'est une petite musique monte de plus en plus aux États-Unis. Alors elle monte au mauvais moment pour OpenAI Anthropic, puisqu'elle monte à quelques mois avant l'IPO, donc c'est sûr que ça fait un peu frémir. Et puis il y a une blague que je vais juste compter, mais qui est de dire, en fait, ces fabricants de modèles, ça va devenir des compagnies aériennes. Les compagnies aériennes, c'est des investissements énormes, c'est vital pour l'économie mondiale, personne ne penserait à se séparer d'une compagnie aérienne, et en même temps ça fait faillite tous les 5 ans et ça sort 3% de rendement sur longue période. Donc il y a cette blague qui est de dire, voilà, en fait c'est ça. Et je pense qu'on arrive à ce moment où effectivement on va se rendre compte qu'on a une révolution, mais que c'est pas le modèle de langage étendu qui en est la révolution, encore une fois, c'est la façon dont on utilise ça dans toutes nos organisations. Et tout à l'heure je mentionnais les entreprises, mais je pense qu'une des organisations qui aurait le plus besoin et le plus grand usage de l'IA, c'est les administrations. On a quand même les administrations qui pèsent aujourd'hui quasiment 25% de l'emploi en France, qui représentent quand même une grande partie de la valeur ajoutée aussi, et c'est là aussi où l'IA pourrait faire des gains absolument gigantesques.
Tiens, on aura l'occasion d'en parler avec Xavier Bertrand, le président de la région des Hauts-de-France. France, qui nous rejoindra dans quelques minutes. La course à l'IA, justement, Manuel Davy, il y a beaucoup de place à prendre. Hein. On est un peu focus sur voilà, les grands acteurs, ou même en France, sur des Mistral, on a plusieurs pépites. Mais non, il y a plein de petits domaines dans la santé, dans l'industrie, où
absolument, il y a de la place à prendre. Cette expression de course à l'IA, elle est un peu trompeuse en réalité, puisqu'elle donne l'impression qu'il n'y a qu'une seule compétition, il n'y a que la finale du 100 mètres, pour dire les choses très simplement. Alors que si on regarde l'analogie avec les Jeux Olympiques, il y a des centaines de disciplines, et l'IA, c'est la même chose. Il y a à la fois des millions de cas d'usage, il y a des centaines de technologies possibles différentes. Et donc, se laisser enfermer dans cette expression, la course à l'IA, c'est déjà admettre une forme de défaite. Alors que ici à Lille, ici en France, on a des pépites incroyables dans plein de domaines qui sont chacune dans leur domaine des leaders.
Mais pour vous, qu'est-ce qui manque pour que justement on ait ce passage à l'échelle, vraiment et le passage à l'échelle, parce que qui dit passage à l'échelle dit création de valeur derrière.
Absolument.
Et voilà, comment on fait, et je poserai la même question à Emmanuel tout à l'heure, enfin là, juste après, comment on fait pour aller franchir cette étape et qu'un Mistral qui n'existait pas il y a 3 ans commence, ça y est, à être une entreprise de 1000 personnes et on espère un plus grand groupe plus tard.
Alors c'est la grande question. Elle est difficile, mais globalement c'est la maturation de l'écosystème qui va avec la technologie, qui va avec les systèmes de données, qui va avec la culture individuelle des personnes dans les entreprises, qui va avec la culture des dirigeants, qui va être la refonte des process. Donc c'est vraiment cette grande transformation sur laquelle il faut mettre beaucoup d'énergie et beaucoup de vision aussi, qui est l'enjeu qui permettra ce passage à l'échelle.
Emmanuel Durand, sur ce passage à l'échelle, vous avez connu ça en plus dans vos vies précédentes d'entrepreneurs, et on rappelle, vous aviez lancé le bureau de Snapchat en France.
En 2016, absolument. Ces notions d'hypercroissance, on les voit, elles prennent beaucoup de place effectivement dans les médias. Effectivement, comme le dit Manuel, une grande partie du bruit médiatique se concentre sur les modèles eux-mêmes, d'accord, sur la guerre effectivement entre Mistral, OpenAI.
Puis ils savent parfaitement communiquer, ce que disait Robin.
Très très fort tous pour occuper le terrain médiatique. Il y a effectivement, comme tu le dis, Robin, pour moi, un risque de commoditisation de ces outils qui fera qu'en fait, le vrai enjeu, c'est comment s'en saisir, quel que soit le modèle finalement. De manière à créer un maximum d'impact et d'aider à faire construire des nouvelles entreprises. On le voit chez Eura Technologies, une grande partie des nouvelles entreprises aujourd'hui, nativement, vont utiliser ces outils de manière à gagner 10-20%, mais parfois aussi c'est des multiples en termes de productivité, notamment sur la création de code par exemple. On le voit aujourd'hui, un seul chef de projet peut avoir en parallèle beaucoup plus de projets de code, de développement, qu'auparavant. Donc là, il y a un réel atout en fait, de l'IA sur ce qui nous concerne nous ici, qui est l'innovation, et qui peut être perçu parfois comme une menace par les entreprises installées, parce qu'effectivement, l'enjeu d'implémenter ça dans des structures existantes est beaucoup plus complexe que de créer
ex nihilo. Il faut changer l'organisation.
Absolument. Et donc, quand vous n'avez pas d'organisation, finalement, c'est plus facile.
et les investissements, voilà, parce que j'imagine que. Parce que c'est aussi l'un des moteurs, l'un des carburants pour cette innovation. Ici, Eura Technologies, on arrive à attirer des fonds d'investissement. Alors, imagine peut-être allemands, enfin nordiques.
On est effectivement à un barycentre du corridor de l'Europe du Nord. On le sait, 1h30 de Londres, 1h de Paris, 30 minutes de Bruxelles. Et on sait que la caractéristique de beaucoup de ces écosystèmes sur cette côte, c'est d'être des écosystèmes qui sont relativement petits et entourés par des grands voisins qui sont très semblables un peu à ce que peut vivre la métropole lilloise et la région, et qui donc sont très sensibles aussi à ce qu'on peut mettre ensemble en commun. Et nous, on voit que effectivement, il y a une capacité à attirer et à être identifié comme un nœud de réseau sur ces éléments-là.
Xavier Bertrand, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Je rappelle, vous êtes président de la région des Hauts-de-France. Donc, magnifique événement. Et ici, aujourd'hui à Lille, data center, énergie, une géographie, on dit un barycentre, on le dit au centre de l'Europe. Les talents, ils sont là, tous les atouts de votre région. Et comment faire justement pour, j'allais dire, passer à l'échelle et aller encore plus vite dans cet univers là où l'innovation est galopante et où les autres ne nous attendent pas.
Comment réussir ? En faisant maintenant l'IA pour tous. Là, on est avec l'IA, elle est avec nous, elle est là avec nous. L'enjeu à partir de ce sommet international, c'est que ce soit vraiment l'IA pour tous, pour toutes les entreprises, quelle que soit la taille et le secteur d'activité, et pour tout le monde. On a vu avec le sondage, pour les jeunes comme pour les toujours jeunes. que ce soit pour les lycéens, les collégiens, les étudiants, les chercheurs, soit pour les agents publics comme les salariés privés. Mon obsession, c'est que ce soit une IA qui soit sûre et qui nous permette aussi qu'il n'y ait pas de différence, de creusement des inégalités sur ces sujets-là. C'est mon enjeu, c'est mon défi, c'est ma responsabilité. Le responsable politique, c'est que ce soit vraiment une IA pour tous. Mais vous l'avez dit tout à l'heure, ça correspond aussi à une autre volonté. J'ai un principe, je ne mets jamais tous mes œufs dans le même panier. Il y a bien évidemment la réussite, on le sait bien, des batteries électriques dans la région. Mais ce que j'ai vu avec le sommet mondial, c'est qu'il y avait une résonance assez populaire où les gens se disaient, ça a l'air compliqué, mais c'est déjà là et on a le sentiment qu'il ne faut pas passer à côté.
Oui.
Et d'où l'idée d'avoir justement tout cet enjeu avec ce sommet international. Mais vous savez qu'au-delà de ce sommet aujourd'hui, il y aura dans la semaine qui vient plus de 340 opérations dans tous les départements, dans le monde de la culture, dans le monde associatif.
Festival
dans le
de l'IA, oui.
Exactement, 340 opérations, et c'est là tout l'enjeu. Mais je n'oublie pas aussi une chose, c'est qu'on a un effort, pardon, un devoir de pédagogie sur la question des data centers. De montrer que les data centers, c'est mille fois mieux, pour ne pas dire incontournable, de les avoir chez nous plutôt que dans d'autres pays. Que les data centers ne sont pas des grandes boîtes vides qui consomment de l'énergie et du terrain avec personne à l'intérieur, où il y aurait une personne seulement qui allume le matin et qui éteint le soir. C'est-à-dire qu'il y a des centaines et des centaines de personnes, que l'énergie fatale qui est produite est réinjectée dans les réseaux de chaleur et que derrière, c'est de la création de richesses et c'est un potentiel pour nos entreprises à nous. On a ce devoir de transparence et de pédagogie.
Tout à l'heure, Robin Rivaton disait aussi aux administrations de prendre le pli aussi de l'IA, et on le voit tous les jours. Personnellement, on ne va pas rentrer dans ce débat autour de la justice, mais quand j'entends la justice, on est débordé. J'ai entendu personne dire, mais pourquoi on n'utilise pas des outils d'intelligence artificielle? Enfin, j'ai pas du tout entendu ça. Mais voilà, je prends cet exemple-là, mais il y en aurait beaucoup d'autres.
Je le fais à la région. Je le fais à la région parce que vous savez, quand on prend des délibérations, c'est aperçu qu'on avait plus d'un millier de personnes qui, à la région, étaient d'une façon ou d'une autre impliquées dans ce processus. Je peux vous dire qu'avec l'intelligence artificielle, ça change les choses. D'autre part, j'ai des agents qui sont chargés de vérifier, comme on dit, la complétude des dossiers. Est-ce que les dossiers sont bien remplis par les communes pour faire les dossiers? Et là, on s'aperçoit avec l'intelligence artificielle que mes agents, non seulement n'ont plus les tâches les plus fastidieuses, mais en plus ont du temps pour apporter un regard humain, apporter un conseil, notamment au maire. Ça change tout. Et je vous cache pas qu'au début, je m'étais dit, on va mettre le paquet sur l'IA, quelle va être la réaction? La réaction était géniale. Alors, en revanche, c'est vrai que j'y accorde beaucoup d'importance, c'est le dialogue social, le dialogue social technologique, d'expliquer les choses aux agents, mais aussi managers, mais aussi aux organisations syndicales, de façon à leur montrer qu'on ne fait pas ça dans leur dos et que c'est transparent. Et c'est vrai que chez nous, on va avoir une modification des métiers, mais avec des agents qui se disent, ce qui était le moins emballant, j'ai moins à le faire. Et par contre, le contact, ça, je vais peut-être avoir plus de temps pour ça.
Ça, Manuel Levy, c'est important de faire comprendre, parce que cette IA, elle frappe. Tout le monde y est confronté. Voilà, ça va être. Moi, je dis même que des plombiers pourront être confrontés un jour avec des petits robots manipulateurs qui vont venir et qui auront une certaine intelligence, jusqu'à même des dirigeants, parce que certains dirigeants disent, mais oui, je conseille une IA, même à Mark Zuckerberg en a parlé. Et ça, c'est quelque chose, parfois, on a du mal à le saisir.
C'est un peu comme le téléphone portable sur une autre technologie. On en a tous un dans notre poche. L'IA, elle va arriver dans tous les métiers. Vous l'avez dit très justement, le plombier pourra faire des devis, pourra gérer ses factures avec l'IA. Donc ça concerne tout le monde. Je voulais rebondir aussi sur un élément. C'est une citation de Jean Fourastier, qui est un économiste qui avait étudié la transformation industrielle. Il a dit quelque chose qui est vrai aussi pour l'IA, qui est que la technologie amène l'homme à se spécialiser dans l'humain. Et je pense qu'il ne faut pas perdre de vue cet élément fondamental qui est vrai aussi pour l'intelligence artificielle.
Robin, justement ce sujet de que l'IA doit être dans notre quotidien, nous, qu'on soit dirigeant, qu'on soit patron d'une start-up, qu'on soit ou employé dans une administration.
L'une des particularités de la révolution de l'intelligence artificielle, c'est qu'elle a débuté par les ménages plutôt que par les entreprises. Et ça, c'est assez inédit. La micro-informatique, les téléphones portables, Internet ont commencé par les entreprises parce que c'était des objets qui coûtaient très cher et sont arrivés chez les ménages ensuite. La mise en ligne de ChatGPT le 30 novembre 2022 a commencé par les ménages, avant les entreprises. Et donc c'est une révolution qui en elle-même est déjà beaucoup plus individuelle que les précédentes. La question, on l'a déjà dit, c'est maintenant comment faire en sorte que le déploiement soit dans les entreprises. C'est pas pour rien que OpenAI et Anthropic ont créé leurs deployment companies récemment. C'est pas pour rien que Mistral met des forward deployment engineers à disposition des grands groupes qui conseillent. Et demain, en fait, il faudrait avoir une dizaine ou une quinzaine d'entreprises qui ne font que ça, que du déploiement au sein des organisations. Et je pense que ce que disait Xavier Bertrand va aussi jouer. C'est pas seulement aujourd'hui les forward deployment engineers, ils ont une vision très mathématiques des choses. Ils vont créer une ontologie, donc un modèle de relation entre les données, et vont faire en sorte que ça marche. Mais en fait, ce que capture pas l'ontologie, ce que capture pas la matrice de relation, c'est qu'il y a des humains. Et les humains, les relations entre les humains, ça, on les capture pas dans le modèle. Les humains, ils ont besoin d'être cajolés, ils ont besoin d'être rassurés, ils ont besoin de, parfois, ils s'aiment pas entre eux, et donc, on peut pas les faire travailler ensemble.
Parfois, ils sont fatigués.
Et donc, pour moi, le complément qui va arriver assez vite dans ces modèles de forward deployment engineers, c'est des gens qui vont avoir un côté extrêmement humain. En droit social, évidemment, parce que c'est des enjeux qui sont importants, mais aussi vraiment en quasiment psychologie, c'est-à-dire je comprends un individu et je comprends comment l'individu interagit avec les autres. Et donc très rapidement, en fait, on va avoir cette couche de gens extrêmement... On dit souvent les études de psycho ne servent pas à grand-chose aujourd'hui, mais je pense qu'au final, il y a un débouché absolument énorme, parce que pour qu'une organisation puisse se transformer durablement, ce sera évidemment la compréhension des flux de données à l'intérieur de l'organisation, mais ce sera la compréhension des relations humaines entre les individus au sein de l'organisation.
Emmanuel, oui.
Ce déploiement de l'IA par les ménages est assez intéressant, parce qu'on parle toujours de l'enjeu d'arriver à faire entrer l'IA dans l'entreprise. On n'a probablement pas mesuré le nombre de gens qui utilisaient les IA secrètement dans leur travail.
Et le shadow AI, comme on l'appelle.
En ayant peur de se faire attraper et en faisant leur propre gain de productivité eux-mêmes pour pouvoir, je ne sais pas, aller à la plage peut-être. Mais en tout cas, il y a peut-être deux discours en fait, sur les peurs et les enjeux liés à l'adoption de l'IA, parce qu'effectivement, c'est un outil qu'on a tous très rapidement, on l'a compris à titre individuel, ce que ça pouvait nous apporter très rapidement. En fait.
Moi, ce que je disais à mon dirigeant, il me dit, mais tu fais quoi de tout ce temps gagné? Je dis, ben en fait, je fais ce que je ne faisais pas avant, mais je ne te le disais pas. Voilà, c'est un peu une façon de parler de tout ça. Ça veut dire aussi, Xavier Bertrand, il faut aller. On passe le bac, les jeunes passent le bac ce matin, je crois que c'est les maths ce matin, les mathématiques. Il faut aussi se plonger aussi dans l'éducation, et je sais pas, dès le primaire, il va falloir intégrer tout ça, cette transformation.
Ça, c'est l'un des enjeux principaux. On n'a pas le droit de prendre de retard, et le sondage des labs était très intéressant, qui montre que quasiment 2/3 des Français veulent que l'IA rentre à l'école. Alors encore une fois, pas n'importe comment, il y a l'enjeu des élèves, il y a l'enjeu des professeurs. Et je vous le dis, on lance une opération dans la région pour que les professeurs qui le souhaitent puissent passer un diplôme universitaire en la matière et la région prendra en charge les frais d'inscription. Alors on va commencer dès la rentrée 26, je souhaite déployer ça au maximum, en lien avec le ministère de l'Éducation. Mais là où ça va être très important pour les professeurs, c'est de bien montrer comment les jeunes, avec l'IA, vont garder leur personnalité, vont garder aussi cette mainmise sur l'IA. Il s'avère que je suis toujours enseignant.
Vous l'utilisez vous-même, l'IA, vous l'utilisez au quotidien?
Peu. Je ne suis pas du tout à résister, mais je veux vraiment qu'on développe cette IA pour tous, mais à titre personnel, peu encore. Mais ça, bien évidemment que ça m'arrive. Mais je le dis parce que je suis aussi enseignant. J'adore cette transmission et j'essaye de montrer aux étudiants combien il est important pour eux de ne jamais se fier à une seule source, mais surtout de continuer à montrer leur personnalité pour qu'ils puissent justement marquer leur différence. Et je pense que c'est foncièrement possible. Là où on a un véritable enjeu, c'est qu'aujourd'hui, vous le verrez, on a voulu avoir des gens qui aiment l'IA, sont pour l'IA, et d'autres qui se posent des questions. Et il y a notamment ce débat en fin de matinée auquel participera Robin, il y a d'autres intervenants, notamment comme Chloé Morin, qui vont donner un peu différentes palettes de rapport à l'IA. Je n'ai pas voulu que ce soit monocolore sur la question, parce qu'il y a des questions clés qui se posent. Mais c'est vrai aussi que quand on a des penseurs, des chercheurs, des gens qui ont un temps d'avance comme Robin, ça nous permet de nous poser des questions. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel aujourd'hui.
Juste, parce que je crois que vous devez nous quitter d'ici 2-3 minutes. On a les présidentielles qui arrivent. Là, je pense qu'on en parle beaucoup aussi, malgré toute cette actualité. C'est un sujet qui doit être important. Vous dites que vous êtes très peu utilisateur. Je crois qu'on a entendu Edouard Philippe qui le disait aussi. Mais il faut vraiment mettre cette IA au cœur. Alors évidemment, tout le monde a en tête les retraits. Enfin voilà, il y a plein de sujets. Mais on sent que l'IA, quand même, il y a beaucoup de bouleversements dans la société. Il faut le mettre au cœur des débats aussi.
Je suis convaincu, c'est la raison pour laquelle j'ai voulu qu'on ait ce sommet, le festival, et on va engager une action de longue haleine, permanente dans la région. Mais je vais même plus loin. Je suis convaincu que le prochain président devra vraiment préparer le pays à cette vague qu'est l'intelligence artificielle. Et pardonnez-moi, parce que le rôle du politique, c'est d'anticiper, c'est aussi de préparer le pays à la vague de l'IA et de la robotique, qui ne sera pas avec tout à fait le même calendrier, mais qui va arriver également, parce qu'on est dans une course de vitesse. Et si on veut que les Français continuent à croire à l'IA et à vouloir en quelque sorte la maîtriser, il va bien falloir leur montrer que nous devons, nous, avoir une obligation sur la formation et sur les nouveaux emplois que nous devons créer. Et pour ça, il y a de la formation. Sur la formation professionnelle dans la région, sur ce que gère la région, je pense que dès l'an prochain, on sera avec un potentiel de 25 000 personnes à former en la matière. Et on met en place un fonds de 100 millions d'euros pour justement les PME de la région pour pouvoir les former. Moi, j'ai cette responsabilité d'être engagé dans cette course de vitesse pour montrer qu'il y aura des changements, mais qu'il y a aussi des opportunités.
Merci Xavier Bertrand, on va vous libérer. Merci infiniment d'avoir été avec nous, président de la région des Hauts-de-France. On vous laisse déconnecter tous les câbles autour de vous. Merci encore d'être venu sur ce plateau. Et on poursuit justement avec nos débriefeurs du jour, nos experts de l'IA. Manuel Lévy, donc président de la Cité de l'IA, Emmanuel Durand, président du comité du directoire de la technologie, et Robin Ribaton, CEO de Stonal. Xavier Bertrand vient de le citer à l'instant. La robotique, on parle beaucoup de la physical AI. C'est la prochaine étape. Est-ce que Cité de l'IA, on commence à voir, je crois qu'il y aura des démonstrations d'un robot humanoïde ici aujourd'hui. On voit cette révolution arriver. On a vu que Renault va en intégrer 350 avec une entreprise française, Wondercraft. Et on aura dans Tech & Co Business Eric Marshall de Renault qui va nous parler de tout ça. C'est important aussi cette robotique. Il ne faut pas la laisser non plus aux Chinois qui sont en train d'avancer très vite dans le domaine.
Totalement. Les Chinois ont pris une très forte avance sur cette robotique. Mais on a aussi, fort heureusement, dans les Hauts-de-France aussi, des universitaires, des entreprises qui sont avancées. On parlait d'Exotech tout à l'heure. L'enjeu maintenant, c'est rentrer dans l'usine. Alors, il y a une première étape à franchir, c'est de récupérer les données. Et ça va être un vrai sujet, puisque les robots, évidemment, ils ont besoin de savoir dans quel environnement ils évoluent. Et aujourd'hui, il y a vraiment un point de travail des industriels sur la capacité à capter les données qui sont aujourd'hui dans les automates, dans les machines. Mais dès que cette étape sera franchie, alors là, c'est d'immenses possibilités qui leur sont offertes pour automatiser, pour aller plus vite, pour grandir en productivité, comme le disait Robin tout à l'heure. Donc là, on a une nouvelle révolution qui arrive.
Emmanuel Durand, sur les 2000 projets entrepreneuriaux qui étaient entrepris depuis 2009, aujourd'hui je crois que c'est 600 entreprises résidentes ici.
Absolument.
On commence à voir arriver cette robotique, cette robotique IA.
Non, c'est le début. Et puis concernant la robotique, on se concentre sur ce qu'on voit, c'est-à-dire le hardware. Oui. Il ne faut pas oublier la couche importante du software, c'est-à-dire
les data.
Tous les robots qu'on voit aujourd'hui ne sont pas autonomes. Ils ont des manipulateurs derrière, des marionnettistes en fait, qui les font marcher. On le voit aujourd'hui, il y a des créations d'entreprises en France comme Amilabs de Yann Lequin qui développent des modèles qu'on appelle les World Models qui permettent de comprendre, d'avoir une compréhension spatiale.
Notamment beaucoup à partir de vidéos.
Et qui est une différence, pas de niveau, mais de nature par rapport au modèle de langage actuel. Donc en fait, on le voit, concernant la robotique, il n'y a pas que les joints et les...
Ou des robots qui font des sauts périlleux arrière.
Absolument. Donc en fait, sur ces sujets-là, je pense que la France, l'Europe, la région évidemment, a des choses à jouer puisque les barrières à l'entrée sont moins élevées que dans la capacité à créer effectivement une usine où les investissements chinois ont montré qu'ils étaient extrêmement efficaces.
On a justement, c'est ça la prochaine évolution de l'IA, Robin Gaton, comment vous percevez justement cette robotique qui encore une fois, on se concentre sur les robots humanoïdes parce que c'est toujours impressionnant, mais voilà, c'est des bras articulés, ça peut être plein de choses, c'est de la computer vision, il y a beaucoup de choses derrière cette robotique.
Oui, alors la robotique industrielle existe depuis 40 ans et est très très optimisée déjà. Avant les robots humanoïdes, on a des grands fabricants qui font des choses exceptionnelles. Le sujet, je pense, a été dit, le robot en lui-même va, comme le modèle de langage étendu, se commoditiser demain, c'est-à-dire que le fabricant d'actuateurs qui permet de faire tourner un bras, ça sera un produit qui va devenir de plus en plus cheap entre guillemets. Le sujet, c'est encore une fois l'intégration de ces outils, parce que ce ne sont jamais que des outils, dans des processus réels. Et demain, c'est quoi? Ça veut dire un hôtelier avec son hôtel, avec les contraintes des couloirs, des escaliers. Comment il fait en sorte qu'il ait un robot qui vienne plier du linge ou remettre des ramasser des serviettes et les remettre sur le porte-serviettes? Et ben ça, c'est vraiment ce sujet entre la connexion entre l'environnement et le robot. Le robot, il va l'acheter chez un fabricant X, Y ou Z. Il l'achètera à un prix qui est un prix industriel qui va déflater au fil du temps. Mais la question de l'intégration de ce robot dans son processus, de se dire bah ici le robot il sert à rien et il faut plutôt que je garde plutôt un processus humain parce que il sait pas bien faire ce processus là ou alors moi j'ai un niveau de qualité que je veux exceptionnel et le robot il travaille pas à un niveau de qualité exceptionnel et donc en fait je vais pas prendre un robot mais je vais garder un humain. Toutes ces réflexions là c'est pour moi c'est vraiment là où se situe la valeur. Et il faut pas avoir peur en se disant oui il y a Unitri, oui il y a AGBot, oui il y a peut-être demain Tesla et Optimus, et on est plus petit en Europe sur ces sujets-là. Mais encore une fois, le sujet, c'est celui de l'intégration, la capacité à recombiner les processus de production en fonction d'un environnement qui existe, des besoins de clients qui existent et qui ne sont pas les mêmes de Paris à Shanghai et de Paris à Boston.
Ça, c'est vraiment cette anticipation qu'il faut avoir, hein, Manuel Lévy. Je discutais l'autre jour avec une entreprise qui me disait, voilà, nous, on avait une dizaine de personnes qui s'occupaient des notes de frais, un très grand groupe, notes de frais d'entreprise, voilà, qui checkaient les notes de frais. Alors ça s'est peu à peu automatisé, mais voilà, ils étaient quand même là pour parce que le computer vision marchait pas forcément bien. Là maintenant, il y a plus que deux personnes. Ça veut dire que les huit autres, il a fallu leur trouver. Et ils disent on n'a pas assez anticipé. Et bon, ça s'est fait un peu dans la douleur. Il n'y a pas eu de suppression de poste, mais justement c'est ça où on a encore du mal aussi.
Alors ça fait partie des actions qu'on mène à la Cité d'IA, c'est d'accompagner la réflexion des ressources humaines justement sur ces projections des évolutions. Et je pense qu'il est important de rappeler qu'il y a trois compétences que l'IA n'aura pas. La première, c'est la véritable créativité. Et donc, si vous avez une activité créative, vous ne pourrez jamais mettre de l'IA pour vous remplacer à 100%. La pensée critique, donc est-ce que c'est bien, c'est pas bien. Et puis la pensée déontologique et éthique. Et ça, évidemment, la technologie aujourd'hui ne peut pas se substituer à l'humain. Ce qui fait que, pour vous donner un chiffre qu'on a observé récemment sur un cas d'usage, une équipe d'administration des ventes qui fait des devis. L'IA permet de gagner 70% sur la réalisation de chaque devis. Or, on constate qu'au niveau de l'équipe qui ne fait que ça, on gagne seulement 16%. Pourquoi ? Bah parce qu'il y a toutes ces autres tâches qui sont invisibles,
oui,
et qui en fait font la réalité du métier. C'est pas juste certaines tâches, un métier c'est beaucoup plus que ça, c'est plus complexe. Et donc l'IA le met en lumière.
Xavier Bertrand disait que toute la semaine vont se dérouler dans les Hauts-de-France pas mal de choses. À la Cité de l'IA, lundi, il y a pas mal de choses aussi.
Alors effectivement, lundi, on a un grand événement, le Tech and Business Day de la Cité de l'IA, qui aura lieu toute la journée à la Cité des Échanges à Marc-en-Barœul et qui permettra d'entendre plus de 60 témoignages d'entreprises qui ont fait des choses dans leurs entreprises. Donc c'est des vrais, c'est du concret et c'est du très condensé. Donc ce sera une belle journée très utile à tous les professionnels qui s'intéressent au sujet.
Prochaine étape pour Eura Technologies, enfin voilà, deux, trois grands plans à mettre en place, Emmanuel.
Alors, on vient de lancer un accélérateur qui s'appelle The Square, dont le jury se tiendra le 2 juillet prochain, et qui a vocation à identifier, accompagner des entreprises dans ces domaines à accélérer demain, principalement sur des problématiques, comme je le disais tout à l'heure, de distribution. On aperçoit que aujourd'hui, il est de plus en plus simple de produire une offre. La distribuer va devenir de plus en plus complexe et donc nous avons comme enjeu de le faire. Je crois que l'IA n'a il y a une promesse fausse de l'IA, c'est que ça va être un grand niveleur de l'intelligence. Beaucoup de gens pensent que ça va devenir une commoditisation de l'intelligence, je ne crois pas du tout à ça. Il y a à mon sens des gens qui vont se dire bah, chouette, je n'ai plus besoin de penser, l'IA peut penser pour moi, et d'autres qui se disent chouette, je peux, il n'y a plus de limite à ce que je peux apprendre et j'ai envie de demander plein de choses, etc. Donc en fait, j'ai envie de paraphraser ce que disait Françoise Sagan à propos de l'argent, mais je trouve que ça s'applique bien à l'IA, c'est que c'est un bon servant et un mauvais maître.
Et bien voilà, ce sera le mot de la fin. Merci à tous les trois, Emmanuel Durand, président et du directeur d'Eura Technologies. Merci de nous accueillir ici pour ce sommet de l'IA au sein d'Eura Technologies à Lille, d'où nous étions en direct, sur ces experts de l'IA pour BFM Business. Merci Romain Rivaton, CEO de Stonal, qu'on aura l'occasion de voir sur scène pour ceux qui sont ici à Lille dans quelques instants. Et puis Manuel Davy, président de la Cité de l'IA. Merci à tous les trois. Voilà, se terminent les experts de l'IA. Et bien, on poursuit évidemment. Tout de suite, on va parler bourse, on va parler investissement, on va parler immobilier sur BFM Business. Et on va aussi parler de ce grand événement que BFM Business suit tout au long de la journée. C'est cette entrée en bourse de SpaceX avec, on l'a dit, beaucoup de communication autour de tout ça, mais aussi beaucoup d'argent. Allez, excellente journée sur BFM Business.
Les experts de l'IA sur BFM Business.